de Tamani, voici nos informations en français.
Vendredi 9 décembre, voici les titres de cette édition. Le processus de mise en œuvre de l'accord d'Alger commence à bouger après avoir connu des blocages. On reparle du cantonnement. 30 milliards de francs CFA seront investis dans cette opération. Les sites de cantonnement, quant à eux, sont désormais opérationnels. 3 sont achevés et 5 autres doivent faire encore l'objet de finition selon ses responsables. 24 heures après la décision de renvoi du procès du dit des bérets rouges, les prévenus restent en prison. Les observateurs estiment que cette décision n'est pas une surprise. Rapatriement de nouveaux migrants, les autorités algériennes ont arrêté plus de 1400 migrants subsahariens. Parmi eux figurent 260 Maliens. L'association malienne des expulsés dénonce cette expulsion et juge leur traitement inhumain. À cette quantité à la présentation de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le processus de mise en œuvre de l'accord d'Alger commence à bouger. Après avoir connu des blocages, on reparle du cantonnement. Les bailleurs se sont réunis hier et la MINUSMA a annoncé la fin désormais proche des travaux dans 8 sites destinés à accueillir les combattants des mouvements du Nord. Fatoumata Togola nous en dit plus.
Le Mali et ses partenaires se mobilisent pour accélérer le processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Le coût de cette phase est estimé à 50 millions de dollars, soit plus de 30 milliards de francs CFA. La Banque mondiale et le gouvernement ont contribué à 25% de cette somme. Cette partie du processus DDR concerne 10 000 ex-combattants des mouvements signateurs. Pour la plateforme, ce financement est très important car il va permettre à des anciens combattants de s'insérer dans la vie civile. Firoun Meiga est membre de la plateforme.
C'est un financement très important puisque le DDR, tel qu'on le dise, les gens s'entendent le cantonnement, ils attendent les patrouilles mixtes, ils attendent l'intégration. Mais en réalité, la base même de la paix résulte dans ce processus de réinsertion. Ceux qui iront dans l'armée ont déjà une profession, auront déjà des activités à mener. Mais pour tout le reste, qui n'auront pas bénéficié de l'intégration, seront reversés dans la vie civile.
Les mouvements de la coordination disent être disposés pour le DDR une fois que toutes les conditions seront réunies. La CMA salue déjà l'annonce de la fin de la construction de 8 sites de cantonnement par la MINUSMA. Al-Mouhag Mohamed est l'un des porte-parole de la CMA.
La CMA est prête ici à traiter de toutes les questions, de toutes les dispositions pertinentes de l'accord et aller à leur mise en œuvre effective. Comme je viens de vous le dire, rien n'empêche le désarmement. Simplement, il y a des préalables, il y a la mise en place des autorités intérimaires, il y a l'opérationnalisation du MOC qui sera chargé, les patrouilles mixtes qui seront chargés de sécuriser les sites où vont cantonner les gens.
Les sites de cantonnement sont désormais opérationnels. Cette information a été communiquée hier lors de la conférence hebdomadaire de la mission de l'ONU au Mali. 3 sites sont achevés et 5 autres doivent faire encore l'objet de petites finitions, seront ses responsables. Olivier Salgado, porte-parole adjoint de la MINUSMA, au micro de Adama Amadou Aïdara.
Sachez qu'au moment où je vous parle, tous les sites sont opérationnels. Il y a l'eau, l'électricité, les toilettes, les bâtiments. Les sites qui sont totalement prêts sont l'ICRA dans la région de Tombouctou, Fafa, région de Gao, Inangar, région de Menaka. Ceux qui sont en cours de finition, les toutes dernières finitions, mais qui restent opérationnels, sont Tinfatimata dans la région de Menaka, Ilouk dans la région de Gao, Ber dans la région de Tombouctou, Tessalit dans la région de Kidal et Tabankort dans la région de Gao. Sur la liste des combattants, les listes qui nous ont été transmises pour le MOC, nous les avons, même si quelques-unes sont en train d'être révisées au moment où je vous parle. Nous attendons toujours la liste pour le cantonnement.
Consultez la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani pour vos réactions et commentaires à ces informations. 24 heures après la décision de renvoi du procès des bérets rouges, les prévenus restent en prison. Le président de la Cour, qui avait rejeté les exceptions de procédure de la défense, a finalement donné suite hier à celle donnant une nouvelle expertise ADN sur les restes des victimes. Retour sur le bilan du procès avec Imran Akilou Maïga.
Avant son renvoi à la prochaine session de la cour d'assises, le procès a connu 4 ajournements. Durant les audiences, la défense a multiplié les exceptions de procédure. Toutes les réserves ont été rejetées, excepté celle de la régularité des expertises ADN sur les restes des victimes mises en cause pour défaut de serment des experts, comme l'exige la loi. Cette décision et les conclusions auxquelles parviendra cette expertise, saluées par le procureur général, s'imposeront selon lui à toutes les parties comme une base probante et le fondement d'une meilleure suite pour un procès équitable. Les avocats avocat de la défense, quant à eux, ont appelé les autorités à faire en sorte que cette expertise soit effectuée dans le meilleur délai. Le procureur général leur a répondu en affirmant que cette affaire sera jugée avant la fin du premier trimestre 2017. Pour la défense, enfin, le renvoi est logique. Selon ses représentants, le dossier n'était pas en état d'être jugé du fait, dit-elle, d'irrégularités énormes. D'ici la reprise des débats, les avocats des prévenus vont réitérer leur demande de libération provisoire, considérant que leurs clients font l'objet de détentions arbitraires.
Et la décision de la Cour de renvoyer le procès à plus tard était attendue. Elle n'a pas surpris les observateurs. C'est le cas de Souleymane Drabo, éditorialiste au Quotidien National. L'Essor, il est toujours au téléphone par Imirana Kiloumaïga.
Je ne pense pas qu'on s'attendait à un renvoi, mais c'était quand même une possibilité parce que traditionnellement, tous ces grands procès commencent par une bataille de procédure dès les premiers jours. Les avocats de la défense soulèvent beaucoup d'exceptions. Et donc, il y a toujours une bataille de procédure qui marque l'entame des travaux de la Cour d'assises dans ces cas-là. Et on s'aperçoit que c'est une raison valable qui a provoqué le report à l'année prochaine parce que le juge a retenu le fait qu'il y avait des irrégularités dans l'expertise des restes des bérets rouges retrouvés à Diago. C'est un procès compliqué déjà. Compliqué non seulement par la gravité des faits, compliqué par le nombre de personnes qui comparaissent avec des responsabilités très diverses. Compliqué aussi par le nombre de témoins et la qualité des témoins qui ont été convoqués. Donc le fait que ce soit renvoyé, c'est une péripétie de plus dans un dossier difficile.
L'Allemagne va continuer à apporter son soutien au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Selon son ambassadeur à Bamako, des policiers et des gendarmes de la République fédérale sont aux côtés des FAMA pour assurer leur formation dans la lutte contre l'ultra-violence. Le diplomate l'a dit au cours d'une conférence de presse tenue lundi à Bamako. Dietrich Becker est ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali. Il est au micro d'Alousena Batouré.
La République fédérale d'Allemagne travaille toujours dans les coopérations militaires et dans l'envoi de nos soldats à l'extérieur dans le cadre de l'ONU. Un mandat du Conseil de sécurité, c'est nécessaire. Nous sommes là avec nos policiers qui travaillent avec la MINUSMA et aussi à travers le EUCAPSALI pour former les policiers, les gendarmes maliens pour être capables de lutter contre le terrorisme. Un pays souverain doit lutter contre le terrorisme avec ses propres forces de sécurité dans son territoire. Si on peut assister avec la formation des équipements, nous sommes là et nous faisons ça depuis des années déjà.
Je vous l'annonçais dans le titre, les autorités algériennes ont arrêté plus de 1400 migrants subsahariens. Ces derniers sont en cours de rapatriement vers leur pays d'origine. Parmi eux, on compte 260 Maliens selon l'AME. L'association malienne des expulsés dénonce leurs conditions d'interpellation et d'expulsion et regrette un traitement inhumain. Ousmane Diarra, président de l'association malienne des expulsés, joint au téléphone par Omar Ouégalo.
Depuis le 1er décembre, jeudi passé, l'Algérie a procédé vraiment le rapatriement massif des subsahariens. Alors, dans le combat, on a compté qu'il y avait 1400 migrants en situation d'arrestation. Et dans les 1400, on a bel et bien enregistré qu'il y a 260 Maliens parmi les 1400. Alors, donc, la condition est extrêmement difficile. La condition de détention n'était pas favorable et la condition d'expulsion aussi est très, très difficile. Alors, l'AME condamne fortement avec beaucoup de force cette attitude de barbarie qui a été faite par l'État algérien qui n'est pas acceptable. Parce qu'il faut savoir, les Maliens qui sont là-dedans sont des Maliens travailleurs migrants. Ils ont laissé tous leurs biens dans le pays d'accueil et ils sont dans les conditions d'expulsion. Ils arrivent dans le pays avec un espoir très brisé. Ils ne sauront pas comment reprendre la vie meilleure dans leur propre pays.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Écho des régions, la région de Koulikoro a recensé plus de 1000 enfants qui vivent de la mendicité. C'est ce qui révèle le rapport de 2015 de la Direction régionale du développement social de l'économie solidaire. Selon ce document, la mendicité est souvent associée aux élèves des écoles coraniques, aux enfants souffrant de handicap physique et mental, aux enfants dont les parents sont en situation difficile, mais aussi d'enfants victimes de l'exode rural. Comment renforcer la chaîne pénale dans le nord du Mali? La question est était au centre d'une rencontre hier à Mopti, initiée par l'Organisation internationale des droits du développement. Ses responsables souhaitent que la justice du nord du pays puisse garantir les droits des populations. Le programme mis en place est financé par le Royaume des Pays-Bas en partenariat avec le gouvernement malien à hauteur de 5 millions d'euros. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de campagne de sensibilisation et d'information sur le VIH-Sida, l'Association des femmes leaders de Sikasso a organisé hier une caravane dans la ville. Cette activité a été suivie d'une conférence débat sur le thème VIH-Sida et droits humains. L'objectif de cette rencontre est d'inciter les populations à connaître leur statut sérologique et discuter de la contamination du VIH et de ses conséquences. Quatre ministres, dont celui des mines, sont en visite aujourd'hui à Yanfouila, dans la région de Sikasso. Ils doivent participer au forum sur le dialogue entre les communautés riveraines et les entreprises minières. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du processus relatif à la mise en œuvre des plans de développement communautaire dans la zone minière de Sikasso. Dans un instant, ce sera le forum de la presse. Bonsoir Ousmane Touré.
Bonsoir.
Alors, vous allez parler de quel sujet?
Alors, nous parlerons donc de ce procès Sanogo, le procès Sanogo qui a été ajourné jusqu'en 2017. Nous parlerons également de la grève des syndicats d'enseignants qui étaient en grève de 5 jours, cette grève qui finit normalement aujourd'hui. Nous parlerons des Maliens expulsés ou des subsahariens, vous l'aviez dit tout à l'heure, expulsés d'Algérie. Et ensuite, nous parlerons de cette attaque sur la prison de Niono. Nous recevons sur ce plateau Youba Konaté du Zénith Ballo, Hamidou El Hadj Touré de Mali Média et Mamadou Fofana de l'Indépendant.
Merci et très bon débat. On se retrouve juste après pour le magazine.